Bonjour à tous. Ma première fois que je vous adresse depuis l'église et c'est un grand honneur. En fait, ça fait un an et demi environ qu'on fait partie de cette église et oui, Michael m'a introduit, mais j'ai eu à cœur aujourd'hui de parler un peu de mon parcours, de ma vie. Comme Michael disait, faire des disciples, être un disciple, c'est une des passions, une des choses que j'ai à cœur. Pas pour dire que je suis l'exemple parfait, mais c'est quand même quelque chose que Dieu met sur mon cœur, quelque chose que je pense souvent, que je médite. Donc, j'aimerais juste vous donner un aperçu un peu de mon parcours, qui je suis, qu'est-ce que j'ai vécu. Et j'espère qu'il y a des choses dedans qui vous encouragent dans votre marche avec le Seigneur. Donc demain, ça fera 44 ans que je suis né, que je vis ici sur Terre. Je suis né aux Pays-Bas. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un tout petit pays en Europe, connu pour les moulins, les tulipes, les sabots, le fromage et plein d'autres choses. Pas pour dire qu'on vit tous dans les moulins, on porte des sabots tous les jours, mais c'est quand même quelque chose qui est typique de chez nous. Je suis né dans une famille où les parents ont choisi, dans les années 70, il y a eu un réveil, et ils ont rencontré Dieu, ils ont choisi de dédier leur vie à Dieu. Et ils voulaient le connaître eux-mêmes, mais ils ont aussi dédié leur vie à le vivre autour des autres, autour d'eux pour en parler aux autres. Surtout mon père, il est un peu un évangéliste, donc il trouve toujours des manières créatives pour connecter avec les cœurs des gens, pour leur donner un aperçu que Dieu les aime, ou Dieu les a créés bons. Quand on saute un petit peu de ma naissance à mon adolescence, pendant mon adolescence, j'ai commencé à fréquenter ou faire partie d'un organisme pour les jeunes. Et ce qu'ils faisaient, ils faisaient des évangélisations créatives. Donc, ce qu'ils avaient organisé était un chorale de jeunes, un groupe de danse, un groupe de théâtre. Et pendant l'année, on avait à chaque semaine des temps de pratique, de préparation. Et c'était fort parce que tous les enseignants étaient des diplômés, des gens qui étaient chrétiens, qui aimaient Dieu, mais qui étaient vraiment bon dans leur métier d'enseigner la danse ou d'enseigner le chant, etc. Donc, j'ai eu beaucoup de fun avec ça. Sauf que ce qui a vraiment fait vibrer en moi, c'était qu'à chaque été, on faisait un voyage missionnaire. Donc, on partait souvent dans un autre pays en Europe et là, on faisait de l'évangélisation créative. On allait dans les rues, on chantait, on dansait, on donnait des témoignages. Et ça m'a vraiment défié, mais aussi fait grandir. J'étais un garçon pas mal timide avant mon adolescence. Et à travers cette expérience, j'ai vraiment appris à être plus à l'aise devant les gens. Pas pour dire que c'est toujours facile. Ce matin, je me suis quand même réveillé tôt. C'est quelque chose quand on a l'occasion de parler, mais quand même, j'ai pris de l'assurance. Donc, ça m'a bâti. Et de vivre ces voyages missionnaires, c'était un moment fort, un highlight pour moi de l'année. Pendant ces voyages missionnaires, et qui ressemblent un peu à ce qu'on fait des fois avec nos tournées de fabricants de joie, je me sentais pleinement vivant. On était avec un grand groupe de jeunes, des fois 50 ou 70, dans un grand bus, et on découvrait le monde avec Dieu, on apprenait sur lui, et on utilisait les expressions créatives qui nous convenaient pour partager l'amour de Dieu avec des gens qu'on rencontrait. Au début, je faisais partie de la chorale, et rapidement, j'ai reconnu que j'aimais beaucoup le rap et je me suis joint à le groupe qui faisait la danse parce qu'on faisait la danse hip-hop. Et je me souviens d'avoir pensé à plusieurs reprises, oh, si toute mon année pourrait être comme ce que je vis maintenant, ça serait la vie idéale, la vie parfaite. Mais je ne le voyais pas comme une possibilité parce que c'était un voyage. On n'était pas payé, non, on devait payer pour pouvoir le faire. Donc, je me suis dit, c'est un rêve, mais je le mets de côté. Suite à un des voyages, j'ai décidé de me faire baptiser. Ma sœur aussi, et de mémoire, je pense qu'il y avait une autre quinzaine de jeunes qui ont décidé de se faire baptiser en même temps. Wow, c'était une célébration. L'église était remplie, on vivait la joie ensemble parce qu'on avait déclaré devant tout le monde qu'on voulait suivre Jésus pour toute notre vie. On recule un petit peu, quand j'avais 12 ans, j'ai réalisé que je ne connaissais pas du tout le français. J'avais pas d'expérience d'avoir parlé le français ou même l'écouter. Même si Paris n'était pas très loin, c'était à 5 heures de route chez nous, je me disais, mais c'est quand même bizarre. Il y a des gens qui vivent à quelques heures de moi et je ne le comprends pas et j'aimerais bien l'apprendre. Bien, chez nous, à l'école secondaire, on apprend le français à l'école, comme l'anglais et l'allemand et l'hollandais. C'est tout un paquet. Mais beaucoup laissent tomber le français dès qu'ils peuvent parce qu'ils trouvent ça trop difficile. Pour moi, c'était devenu une passion. Je voulais l'apprendre. Donc, je l'ai gardé pas seulement à l'école secondaire, mais aussi à l'université, j'ai choisi de le garder. Pour parler de l'université, je savais pas quoi étudier. Je trouvais ça très difficile de choisir une matière ou une direction. Donc, finalement, je suis allé avec l'administration d'affaires et de management. Pendant tout ce temps, je voulais apprendre à connaître Dieu et surtout d'écouter sa voix, mais je savais pas trop comment. Mes parents avaient fait une école de formation de disciples avec Jeunesse en Mission quand j'avais 3 ans. Et j'admirais ça en eux, qu'ils étaient capables d'écouter la voix de Dieu. Je voulais l'apprendre aussi. Donc, j'ai dit, un jour, je vais faire une école de formation de disciples. Mais j'ai pas fait de plan. J'ai pas dit, telle année, je vais le faire et je vais mettre l'argent de côté. C'était juste un jour, quand Dieu pourvoit, je vais le faire. Donc, après mes études, j'avais marre des bancs de l'école et j'ai commencé à travailler. C'était dans un bureau d'administration. Et c'était un bon travail avec de bonnes conditions et de bonnes possibilités. Mais après 2 ans, je me suis dit, soit je continue et ça va vraiment me stabilisé ici, je vais acheter une maison, je vais prendre une carrière et ça ferait de moi quelqu'un qui est pris dans une certaine routine, mais je vais plus voyager, aller à l'aventure. Donc est-ce que je veux ça? Et j'ai décidé que non, je veux partir en voyage, au moins encore une fois, et après peut-être peut-être ça sort de moi et je peux m'installer. Donc, j'ai décidé de faire une école de formation de disciples, comme mes parents avaient fait. Et donc là, pendant une année, j'ai travaillé, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai organisé ma vie pour pouvoir partir. Donc là, je me suis dit, mais où? Parce que Jeunesse en Mission, ça existe partout dans le monde. Je pense que là, en pandémie, c'est différent, mais juste avant, je pense qu'il y avait au moins 1000 endroits dans le monde où tu pouvais faire une école de formation de disciples. Donc, je me dis, où est-ce que je vais? Et Dieu m'a guidé à travers mes désirs. Je sentais que ce n'était pas Dieu qui allait me dire, tu vas en Israël. Non, il m'a laissé le choix. Qu'est-ce qui t'intéresserait? Quels sont les pays où tu aimerais aller? Donc, moi, j'ai fait une liste et à chaque fois, j'ai enlevé des endroits de la liste. J'ai regardé des sites web, des écoles pour voir si ça me parlait. Et finalement, j'étais entre 2 écoles. Il y avait l'école à Los Angeles et une autre école à Denham, au Québec. Denham, c'était difficile à trouver sur la carte. Je n'avais jamais entendu parler. Donc, je me dis, mais quel endroit choisir? Et là, Dieu m'a rappelé que j'avais appris le français et je ne me suis jamais servi de cette langue. Donc, j'ai eu ça comme aide pour prendre ma décision et je suis venu au Québec. Ça, c'était en 2002. Quelle expérience extraordinaire! Dieu m'a rencontré et il m'a montré que je suis capable d'écouter sa voix. Je pense que ça, c'était une des highlights. Bien qu'on a vécu de belles choses, c'était un désir que j'avais avant et Dieu a vraiment répondu à cette désir. Et j'ai retrouvé la même joie que j'avais, la passion quand je faisais ces voyages missionnaires avec des ados. Quand on vivait cette école de formation de disciples, et surtout le temps en mission, hein, c'est toujours une école où on reçoit, on apprend, et ensuite on met en pratique, on part, on sert, on bénit. Donc, quand on vivait ça, je me sentais comme quand j'étais un ado. Donc, à la fin de cette école, je suis rentré chez moi, aux Pays-Bas, et j'avais une prière sur le cœur. Je dis, Seigneur, un jour, je voudrais aider à organiser une école de formation des disciples pour des autres, pour aider que d'autres puissent vivre ce que moi j'ai vécu et recevoir ce que moi j'ai reçu. Et moi, quand je priais ça, je pensais que c'était peut-être quelque chose en 10 ans. Mais en fait, 6 mois plus tard, je me retrouvais de retour au Québec en tant que staffé une école de formation de disciples. Quand j'ai répondu à ce défi, j'ai appris et j'ai grandi beaucoup, en tant que personne, mais aussi dans ma relation avec Dieu. En plus de ça, ça m'a permis de rencontrer Paulina, et nous avons commencé à fréquenter, on s'est fiancés et on s'est mariés dans l'année qui suivait. J'avais prié pour une épouse qui partage mon désir de suivre Jésus et je l'ai trouvé en elle. Et maintenant, on vit une famille multiculturelle, comme Michael a dit, mexicaine, hollandais, au Québec. On parle. Allô? Allô? Okay, oui. Donc, on parle 3-4 langues tous les jours chez nous. Donc, en plus de juste avoir ce prière qui a été exaucée, on vit une richesse qui me plaît beaucoup. En 2007, on a été invité de retourner à Jeunesse en Mission pour travailler avec l'organisation à plein temps. Et cette année, on a pris l'organisation et la gestion d'une école de formation de disciples. Et en plus, avec une année ou deux de plus, beaucoup d'autres responsabilités sont ajoutées. Je commençais aussi à former les staffs et faire partie de l'équipe de leadership du centre. J'ai mis en action beaucoup de choses que j'ai apprises au cours de ma formation professionnelle. Donc, par exemple, faire des budgets, l'organisation, planification, diriger une équipe, présenter. Et juste pensant à ça, ça m'a juste comme... Ça a été un beau choc. Parce que moi, je pensais quand j'ai décidé de suivre Jésus, je pensais que j'avais tout comme laissé derrière. Tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais accumulé, j'avais dit, OK, Seigneur, je te donne ça et je te suis, je veux être ton disciple. Et juste de réaliser que, en fait, les choses que j'ai faites, que j'ai appris, même sans trop savoir pourquoi, Dieu s'est servi de ça pour me faire grandir et pour bénir le monde. Même chose pour le français. À l'âge de 12 ans, j'ai commencé à apprendre le français et je ne savais pas pourquoi. Et pendant 5 à 7 ans, j'ai continué d'apprendre et investir. Et je me souviens, après avoir terminé l'université, et je travaillais et j'utilisais le français jamais. Je dis, Seigneur, pourquoi tu me donnes une passion pour une langue si je l'utilise jamais? Et là, de voir que, alors que j'ai suivi Jésus dans ce qui m'a mis sur le cœur, le français a été la clé pour faire ce que je fais maintenant. Ça a été la clé pour faire ce qui est devenu, ouais, le highlight de ma vie. De suivre Jésus, mon travail, on pourrait dire. Donc, je trouve tellement beau, et ça me rend tellement reconnaissant de voir comment Dieu a utilisé ces détails que je ne pouvais pas planifier moi-même pour me faire grandir et pour être plus capable de bénir des autres. Donc, si tu es dans une saison et tu te poses la question, soit tu as des choix que tu as faits ou même peut-être des choses que tu as subies ou vécues, et tu dis, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi. Je ne veux pas dire que la vie est toujours simple et qu'on va toujours avoir une réponse à la question, mais confie ça à Dieu, parce qu'il promet quand même qu'il peut utiliser tout pour notre bien et pour le bien des autres autour de nous. Pendant 10 ans, j'ai dirigé cette école de formation de disciples à Dunham. Et pendant ces années, j'ai eu toutes sortes d'occasions d'apprendre et de grandir. Et entre autres, il y avait un défi que quelqu'un m'a lancé. Est-ce que tu es prêt à venir enseigner dans notre école aux États-Unis? J'ai dit, enseigner, j'ai pas enseigné encore, j'ai pas d'expérience vraiment. Et là, tu veux que je vienne enseigner toute une semaine, et même sur un sujet que j'avais pas étudié vraiment. Mais il dit, c'est quelque chose que tu vis, je veux que tu pries par rapport à la mission interculturelle, par rapport à la Bible. Donc j'ai dit oui, et j'ai tellement grandi à travers cette expérience. Donc une autre leçon. Si tu veux grandir dans ta relation avec Dieu, dans toutes sortes de domaines, dis oui quand Dieu te met au défi. Ça vient rarement comment tu le veux et comment tu aurais choisi, mais si Dieu te met au défi, c'est parce qu'il te connaît, il t'a créé, il sait ce qu'il y a comme potentiel en toi. S'il dit, hey, viens, relève ce défi. Il promet qu'il soit toujours avec nous et on apprend énormément. Ça nous sort de notre zone de confort, mais ce n'est pas une mauvaise chose. J'aimerais vous parler un peu de cette passion. J'ai deux passions. Quand je pense à la vie avec Dieu et surtout avec la parole de Dieu. Il y a le royaume de Dieu qu'on trouve à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament. Jésus en parlait souvent, pas seulement avec ses disciples, mais aussi avec les foules. Sauf que à chaque fois qu'il parlait du royaume de Dieu, il parlait en parabole. Donc il donnait une image. Il disait le royaume de Dieu, c'est comme un grain de moutarde. Ouh. Un trésor caché dans un champ, ou la levure, il y a toutes sortes d'images pour le royaume de Dieu. Donc c'est une passion, une chose qui me passionne d'essayer de comprendre de mieux en mieux qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu, comment ça fonctionne, parce que c'est un royaume à venir, mais qui est déjà là. Anyway, je dis déjà plus que j'avais écrit. On va garder ça pour une autre fois, parce que je veux parler du deuxième sujet. Le deuxième, c'est être un disciple et faire des disciples. Le thème de cette saison pour l'Église est aussi le thème de ma vie. Donc, en Matthieu 28, je pense que ça a été cité toutes les semaines qu'on en a parlé, et je le fais aussi, parce que c'est tellement clé. Quand Jésus était ressuscité et il est réapparu à ses disciples, il a passé du temps avec eux. Ensuite, il disait, il faut que je retourne vers mon Père et je vous laisse avec ce commandement. Et Jésus disait, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il y a trois choses que je vois. Il y a faites des disciples, on en parle. Il y a baptisez-les et il y a enseignez-leur. Les actions que Jésus nous a laissées. Donc, baptiser, je pense qu'on en avait déjà parlé un petit peu. Mais ce que j'aime avec l'image de baptiser, c'est que on décide de laisser notre vie, notre style, notre tempérament, notre saveur, on pourrait dire, pour prendre le saveur de Dieu. Comme si on est en train de mariner, un concombre qu'on trempe dans la marinade va changer. Il ne va pas juste avoir quelque chose à l'extérieur. Toute sa saveur va changer. Il va devenir plus comme la saveur dans laquelle il est trempé. Donc, en Galates 2, verset 20, ça dit, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. » Donc, je pensais, quand j'étais plus jeune, je pensais que j'enlève moi, tout ce qui est de moi, et c'est comme si je suis juste un extérieur, moi je suis sorti et c'est Dieu qui vient en moi. Mais c'est plus complexe que ça. C'est lui qui vient nous inspirer. Donc, on est encore nous. Et ça va avec le deuxième commandement. Donc, il y avait... le troisième, en fait. Donc, faites des disciples. Il y a baptisez-les et enseignez-les à obéir les commandements de Jésus. Donc, quand nous acceptons le sacrifice de Jésus et le pardon de Dieu... Nous sommes acceptés et adoptés par Dieu le Père dans sa famille. Donc ça, c'est une grande joie. On l'a chanté et on le chante et on le dit et on le répète à chaque semaine, et peut-être même à chaque jour. C'est tellement fort d'être adopté dans la famille de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes devenus comme Jésus instantanément. C'est une nouvelle naissance. Et quand je pense à ça, à une naissance, un bébé, un tout petit, il doit apprendre à tout faire. Quand on est né, au début, on ne sait rien faire. Donc, comme un enfant qui prend du temps à grandir, et à chaque fois, au début, c'est déjà quelque chose, il arrive à lever la tête. Yay, on le célèbre! Et après, il peut bouger de plus en plus. Commence à faire des sons, il peut attraper quelque chose. Yay! C'est super! Et avec le temps, il commence à s'asseoir, à marcher, à parler. Toutes des choses, toutes des étapes qui sont importantes. Et pour nous aussi, dans notre vie avec Dieu, quand on accepte Jésus, c'est super. Dieu est là avec nous, mais notre esprit doit aussi apprendre à vivre dans la nouvelle vie de grâce. Et ce mot de grâce, ce mot grâce veut dire un faveur ou un pardon accordé librement. Donc, c'est quelque chose qu'on a reçu, qui est extraordinaire, mais c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Nous vivons encore avec nos expériences, nos souvenirs, nos habitudes, nos douleurs, nos craintes. Tout ça ensemble, on pourrait appeler notre vieille nature. Et comme le bébé qui apprend à parler ou marcher, nous devons aussi apprendre à agir selon la grâce et la nouvelle identité que Dieu nous a accordée, au lieu de suivre nos tendances qu'on avait avant. Et en Éphésiens 4, versets 22 à 24, ça dit, j'ai la version à parole de vie, ce que vous étiez avant, il faut vous en débarrasser comme un vieux vêtement. Comprenez les choses d'une façon nouvelle, selon l'Esprit de Dieu. Et comme si vous mettez un vêtement neuf, devenez une personne nouvelle. Cette personne nouvelle est créée comme Dieu veut. La vérité la rend juste et sainte. Donc, j'aimerais peut-être juste le relire parce que ça a coupé quelquefois. Donc, ça dit, ce que vous étiez avant, il faut vous en débarrasser comme un vieux vêtement. Comprenez les choses d'une façon nouvelle selon l'Esprit de Dieu. Et comme si vous mettiez un vêtement neuf, devenez une personne nouvelle. Cette personne nouvelle est créée comme Dieu l'a vu. La vérité la rend juste et sainte. Donc, comme un vêtement, on peut choisir de mettre de côté ses craintes, ses habiletés, ses habitudes, ses choses, souvenirs, douleurs, expériences, tout ce qu'on a. On peut choisir de les mettre de côté et se revêtir avec la grâce et l'amour de Dieu. C'est un processus progressif, mais ça continue toute notre vie. Toute notre vie, de gloire en gloire, on devient de plus en plus comme Jésus. Donc, quand je pense à ça, je me dis, on agit quand même encore dans notre vieille manière. On le reconnaît, on se repent, on accepte la grâce de Dieu et on recommence. Et encore quelque chose arrive. Et quand on y pense, quand on fait le cercle à plusieurs reprises, ça peut décourager, mais je crois qu'on n'est plus jamais à l'endroit où on était avant. À chaque fois, on avance un petit peu. Et c'est ça aussi la vie avec Dieu, de continuer de croire de ce que Dieu dit sur nous est vrai et qu'on a été créé pour devenir de plus en plus comme Jésus. Donc, si Dieu le dit, si Dieu le dit, ça veut dire que c'est possible. Si Dieu le dit, on peut devenir à chaque fois un peu plus comme Jésus. Donc, pour moi, quand je travaille avec une école de formation de disciples, c'est tellement bon parce que on est avec une gang de gens qui ont choisi, qui ont décidé d'être là, qui veulent se rapprocher de Dieu. Et donc là, on peut aller loin, on peut aller profondément. Et donc, on parle de nos croyances profondes. Qu'est-ce qu'on croit vraiment? Pas seulement qu'on doit croire, mais qu'on croit vraiment. Et nos croyances, ça se traduit dans nos valeurs. Qu'est-ce qu'on trouve important? Et nos valeurs amènent à des actions. Et je sais que pour moi, la plus grande frustration, c'est de réaliser que, oui, le standard que Dieu a mis est bon. Sauf que, même si j'essaie, j'arrive pas à atteindre et respecter ce standard. Ça m'amène la frustration, la honte, le désespoir. Mais à ce point-là, je peux me souvenir du sacrifice de Jésus et la grâce de Dieu. Quand je reconnais et me repens, je regarde dans le miroir comme Michael nous a montré la semaine passée et je vois qui je suis et qui Jésus est et qu'est-ce qu'il dit de moi, pourquoi j'ai été créé et je me repens de mon erreur et je choisis d'avancer dans la direction de Dieu. Donc ça c'est une réalité pour tous ceux qui veulent suivre Jésus, on vit ce cycle. Mais comme je disais, c'est pas, on ne revient pas à zéro à chaque fois. À chaque fois, on avance un petit peu. Et de plus en plus, l'identité de Christ est formée en nous. Parlant de l'identité. Donc l'identité, hein, on a adopté Jésus. Jésus nous a adoptés, mais on l'a aussi adopté comme Seigneur. On a choisi de vivre avec lui. Et là, on reconnaît que, comme je disais avant, Dieu se sert des choses qu'il a mis en nous quand il nous a créés. Parce que quand il nous a créés bons. On a en nous toutes sortes de talents et de dons, hein, des habiletés, des passions, des caractères, etc. Et ces talents-là sont des choses qu'on doit découvrir. On doit les découvrir et les mettre en action. Il y a toute une parabole aussi par rapport aux talents. Et on voit que Dieu se réjouit de ceux qui mettent en action, hein, qui utilisent les dons qu'il a donnés. Mais pour faire ça, il faut de l'audace et la persévérance pour les trouver et pour les développer. Et là, je veux vraiment encourager les jeunes, les enfants, les ados. Dieu a mis beaucoup de pépites d'or en vous. Certaines choses, vous savez déjà, vous connaissez, mais d'autres, pas du tout. Mais si Dieu les a mis en vous, ça vaut la peine de les découvrir et les développer. Ce serait dommage de les laisser. Et je sais que la pandémie, pour beaucoup de ces aspects, ça ne nous a pas aidés, hein, parce qu'on est tellement limité dans ce qu'on a le droit de faire. Par contre, je veux vous encourager de ne pas comme suivre l'apathie, pas dire ah, « on attend ». Il y a des moments que nous aussi, dans notre famille, on choisit juste de regarder un film ou une série ou de rien faire. Mais même en temps de pandémie, on peut continuer de nous développer. Pour certaines, ça veut dire peut-être d'apprendre à jouer un instrument ou apprendre à parler une autre langue ou hein, toutes sortes de trucs. Je vous encourage d'être proactif parce que Dieu a mis des choses en vous. Vous pouvez vous surprendre. Il est bon et cette découverte va continuer toute notre vie. Donc même les moins jeunes, vous aussi, il y a encore des choses en vous que vous n'avez pas encore découvert. Donc lâchez pas, hein? Laissez Dieu vous surprendre et vous défier. Et quand on fait ça, à chaque fois qu'on vit une victoire, Dieu se réjouit avec nous. Il dit « Yay! » Parce que j'avais mis ça en lui. J'avais donné ça à elle et elle est en train de l'utiliser. C'est pour sa gloire. Par rapport à cette idée de se développer, je pensais à quelque chose. On a beaucoup de livres hein, qui disent « Ah, oh, je te donne 5 étapes pour devenir riche, beau, sage, fort, je sais pas. » Il y a tellement de méthodes qui disent « Fais ces 3, 4, 5, 10 étapes et tu deviens... » Mais ce qui m'a frappé, c'est que si on cherche l'épanouissement personnel, en fait, on n'y arrive pas tout seul ou en focalisant juste sur nous. On a tellement besoin d'être connecté à une communauté. Beaucoup de choses que j'ai appris ou développées sont venues en me mettant disponible à l'église, pour mon voisin, pour ma famille, pour d'occasion dans ma ville. Donc, quand on choisit de servir, de bénir, donc pas chercher la bénédiction pour soi, quand on sert, quand on donne l'occasion de Dieu nous bénir. Et il le fait à travers les gens autour de nous. Donc aussi là, je veux encourager, même en pandémie, peut-être il y a des choses qu'on peut faire pour un voisin, ou bientôt on aura de plus en plus de droits,
mais sautons sur les occasions pour bénir et servir les uns les autres. Donc, je veux conclure avec ce que j'ai décrit comme l'appel du disciple. Donc, même si en tant que disciple, on est quelqu'un qui suit Jésus, on n'est pas seulement là pour recevoir de lui. Dieu nous a confié une grande tâche de le représenter dans ce monde. Et on avait lu Matthieu 28. Mais ce qui nous défie, c'est dans trois domaines en fait. Il dit que nous sommes envoyés en tant que prêtre. Donc c'est quoi un prêtre? Un prêtre, c'était quelqu'un, on le voit surtout dans l'Ancien Testament, qui se tient entre Dieu et les hommes. Donc, un prêtre, c'est quelqu'un qui connecte les gens à Dieu. En 1 Pierre 2, verset 9, ça dit, « Vous, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Donc, on peut être des gens qui connectent, on peut être quelqu'un qui connecte les gens à Dieu. On est aussi appelé à être un prophète. Et c'était qui les prophètes? C'était quelqu'un qui pouvait communiquer le cœur de Dieu et ses pensées par le Saint-Esprit. C'est tellement fort quand on peut proclamer, prononcer les paroles de Dieu dans la vie de quelqu'un. Et je sais que moi, souvent, quand je pense à ça, je dis, ah, ça doit être avec un frère ou une sœur dans l'église. Mais en fait, comme mon père fait souvent, en tant qu'évangéliste, il rencontre des gens et il déclare sur eux comment Dieu les voit. Et c'est des gens qui n'ont aucune relation avec Dieu encore. Et ils sont touchés, ils sont bénis. Donc, on a cette possibilité aussi. Donc, je vous encourage à demander à Dieu pour une occasion de prononcer ses paroles de vie sur quelqu'un. Et comme on a lu en 1 Pierre 2, 9, donc, on est des prêtres royaux. Royal, ça veut dire qu'on est des princes et des princesses. On est appelés à régner avec Christ. Il nous a délégué son pouvoir. Et son règne, comme je disais tantôt par rapport au royaume de Dieu, c'est à venir, mais c'est déjà là. Et donc, quand on agit selon les lois du royaume, on voit, on établit déjà en partie le royaume de Dieu sur terre. Donc, ça c'est quand on agit en vérité, en grâce, en amour dans nos situations quotidiennes. Ouais. Donc, comme je disais avant, on n'est pas seulement appelé à recevoir de Dieu, même si c'est très important, on est dépendant de Dieu et on lui cherche, on veut être rempli. Mais on n'est pas des verres, on veut être rempli de Dieu, mais on veut être une carafe ou une pichet en même temps. Donc, alors que Dieu verse en nous, nous sommes appelés à verser dans des autres. Donc ça, c'est ce que j'avais à cœur de partager avec vous ce matin. Et j'aimerais juste terminer ce moment en prière. Et après, on va faire la Sainte Cène. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Merci parce que Alors qu'on te laisse travailler dans nos cœurs, tu formes davantage ta nature en nous. Et on veut laisser derrière nos vieilles habitudes, nos peurs, nos craintes, les choses qui nous gardent de vivre pourquoi on a été créé. Merci Jésus, merci Saint-Esprit. nous aider à chaque jour, de nous remplir. Et je prie que tu nous donnes des occasions et l'audace de donner, de verser, de dire, de parler dans les vies des gens autour de nous. Je prie, Seigneur, qu'on puisse être des messagers, des envoyés de toi. Parce que le monde a tellement besoin d'entendre tes paroles de vie et de grâce. Merci, Seigneur. Amen.